la présentation de Simon était dense, avec beaucoup de choses et beaucoup de réflexions sur la place du chercheur, sur... bonne question, à qui sont destinés les résultats de la recherche? Je pense que c'est une question intéressante sur la question de l'engagement. Une question là, parlez bien fort.
Moi j'avais juste une question, deux questions. À quel moment tu sais que tu dois t'arrêter dans ton application, par rapport à ton engagement sur ton terrain? En fait, à quel moment tu te mets des limites? Par exemple, si tu fais des activités, si tu es activiste ou pas, à quel moment tu te dis, bah là stop, parce que par rapport au milieu universitaire, ça va mettre des barrières en fait. Et j'avais une autre question parce que je m'intéresse au processus d'engagement dans la mode. Et je voulais savoir ton t-shirt en fait.
Alors, je vais commencer par cette réponse-là. C'est Marée Noire, un groupe de punk entre Angers et Nantes, qui a fait ce t-shirt avec un visage d'une personne célèbre, qui détruit la France. Et c'est un groupe anarcho-punk de Angers et de Nantes. Ouais. Sur la question de la limite, en fait, la limite, je pense que si dans une démarche participante comme la mienne, tu peux pas te la poser dans le processus de recherche. C'est qu'en gros, par contre, tu peux la conjurer. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est ce que René Bourreau et les institutions ont développé avec la méthode du journal. C'est-à-dire qu'en gros, mon engagement, il est plein et total dans ce que je vais faire, mais il y a des temps que je libère où je me pose et je regarde mon journal de recherche dans lequel j'écris pas seulement, justement, ce que j'observe, mais ce que je ressens à des moments particuliers, etc. Et c'est à ce moment-là, dans le traitement académique de cette expérience-là, que du coup, je vois qu'à un moment, j'ai été suraffecté par quelque chose et que mon interprétation dans le journal, elle est complètement foireuse. Et c'est là qu'effectivement, tu te retrouves à avoir une prise de recul, une distanciation qui est nécessaire, parce qu'il faut qu'il y ait la distanciation au moment. L'écriture est d'ailleurs un processus de distanciation permanent. Et en gros, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Si je prends un exemple, j'avais dans le cadre du master, je tenais un journal dans le cadre de mon master, qui portait sur temps, autonomie et vie quotidienne. Et j'étais en pleine lecture de Baudrillard à ce moment-là. On venait de faire une manifestation en soutien à des sans-papiers, je crois. Il n'y avait pas eu grand monde, on s'est dit pleuvait, on s'est fait taper dessus par les flics. Je suis au bar, au café, en train de commencer à rédiger un truc. Et là, je me rends compte, j'écris des trucs dans mon journal, et deux jours après, je le relis. Et je me rends compte que les pages que j'avais écrites dans mon mémoire étaient sur-affectées et sur-critiques. Parce qu'en fait, j'étais saoulé par le fait de voir des gens, quand j'étais au café, qui passaient avec des sacs de courses des Galeries Lafayette, alors qu'on venait de se faire taper dessus par la police pour soutenir des gens qui étaient traités comme de la merde. Et quelque part, ce que j'avais écrit à ce moment-là avait été largement conditionné par cette expérience vécue. Et le moment, en fait, où j'ai relu ces pages-là, j'ai confronté ça au moment où je les avais écrites dans le journal, et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait tout un contexte qui faisait que j'avais surinterprété aussi un certain nombre de choses, quoi. Et le journal est un appui fondamental. On a tendance à le prendre vraiment comme un truc de description. Et en fait, je pense qu'il faut dépasser la portée descriptive du journal. Parce que notre description, de toute façon, elle est aussi affectée systématiquement. Et pas hésiter à y remplir les questionnements, des affects, etc. Parce que c'est de là que tu peux fixer la limite. C'est en voyant un moment, je me suis fait larguer, c'est assez marrant en fait. Après, les descriptions, elles changent aussi. C'est con, hein. Non mais, c'est réellement un principe méthodologique qui est oublié. C'est un angle mort. L'analyse institutionnelle a voulu le mettre en avant, mais ça détermine vraiment de choses. Et on le sait, quand on écrit différemment en fonction de ses vécus. Après, la principale limite à mon engagement, c'est souvent sur les terrains autonomes, c'est souvent la surveillance policière. C'est aussi un moment où tu dis, je vais peut-être pas suivre les gens que j'étudie parce que, en fait, je vais pas les suivre jusqu'à la 96 heures de garde à vue.
Tu dis à la fin, justement, tu t'engages dans une sociologie radicale, critique, t'es pas sûr de trouver un boulot. On a le même, Luc est bien placé pour en parler, en sociologie du sport, on a un courant de sociologie critique du sport. Jean-Marie Braun,
Patrick Vassour, chez toi.
Et pour enseigner en STAPS, en master, personne ne connaît. Personne ne connaît, je parle. Marie Braun, ils ont entendu parler. Mais Patrick Vassour, personne ne connaît. Donc, comme tu dis, voilà, il y a ce courant critique qui est alors soit mis de côté par l'institution parce que ça pose des questions, etc. Comme tu dis. Donc là, on peut le retrouver aussi dans ce côté sportif, hein, dans l'objet sport. Donc moi, la question c'est aussi, par les Bourdieu, est-ce que toi, dans ton engagement, il y avait dans ton environnement, qui t'a poussé aussi à t'engager dans les études, etc., mais dans toutes les politiques, etc.
S'il n'y avait pas eu le coup de pied, je pense que effectivement la question se pose. C'est pour ça que j'en parle comme une brisure et un commencement, quoi. C'est qu'à un moment, ça a été déterminant, je pense. Le fait que cette copine-là, c'est pas d'un coup de pied, et que je me retrouve, et que surtout que je me retrouve à la fac en pleine nuit, alors que j'y foutais jamais les pieds, et je me rends compte qu'il y a des gens qui y habitent, ça a été un truc de fou. Cette occupation du campus 1 de l'Université de Caen, elle a duré un mois, ça nous paraissait énorme à l'époque. Celle de 2007, elle a duré 3 mois, je crois, au total. Mais du coup, vivre dans les bâtiments avec des gens, découvrir autre chose, ça a été déterminant, et notamment sur tout un tas de choses. C'est-à-dire à la fois mon entrée dans la recherche, mais aussi mon entrée dans l'engagement politique. Sur la question de la sociocritique du sport, oui, je connais bien, enfin, Luc mentionnait Patrick Bassor, qui est un ami de Caen, avec lequel j'ai des gros désaccords théoriques, justement sur la question de la sociologie, mais avec qui en fait on se retrouve aussi à lutter dans l'institution ensemble. C'est-à-dire que ils sont effectivement minorés, je pense, là où ils ont été majoritaires à d'autres moments aussi, enfin pas majoritaires, mais où ils ont été relativement bien portés à une époque, bien portants. Il y a aussi un geste de mise à l'écart, je crois, dans cette attitude critique, qui vise aussi à. Je crois que c'est une pathologie qu'ont tous les courants de pensée critique, c'est se dire qu'on est aussi mis à l'écart. Alors qu'en fait, c'est souvent la faiblesse qui ne permet pas d'atteindre l'hégémonie. Le fait est que je pense que je ne l'ai pas développé, mais dans la question du rôle de l'institution, c'est effectivement le prendre comme tel. L'institution est une force de socialisation. Et il ne faut pas s'en barrer. Ce que je dis juste, c'est que le versant recherche alimente nécessairement les cours, alimente un certain nombre de choses. Et que s'il y a quelque chose de fantastique dans l'enseignement à l'université, c'est bien de débloquer des choses dans la tête des étudiants. Et moi, je ne fais pas de prosélytisme dans mes cours, mais par contre, ce que je cherche à développer, c'est l'attitude critique. C'est le doute radical et nécessaire dont parle Weber. Je pense que ça, c'est le truc qui est fondamental. Et ça, en fait, tu ne peux pas le faire si tu es dans une posture, justement, où tu parles de tes engagements. Parce que ça ne parle pas aux étudiants. Donc, en fait, nécessairement, je ne le fais pas. Mais mes recherches, par contre, permettent aussi de m'adresser aux populations concernées par mes recherches. Et je pense que l'articulation entre enseignement et recherche, c'est là qu'elle prend son sens. C'est dans le fait d'amener des gens à se poser des questions, et puis qu'après, en fait, ils iront voir ce sur quoi tu travailles, tu les recroiseras peut-être ou pas dans d'autres contextes, et voilà. Mais je pense qu'il y a une lutte d'empare et contre l'institution, hein, comme disait justement l'analyse institutionnelle. Après, dans les rencontres théoriques, il y a les situationnistes, bien évidemment. Comme tout jeune anarchiste, j'étais content de tomber là-dessus. Et puis ensuite, comme vieux communiste, Henri Lefebvre, Agamben et quelques autres.
C'est une question par rapport à un peu, on va dire, l'actualité de quelques années là maintenant, avec une sorte de petit regain de mouvement autonome à droite à gauche, par rapport justement à la production, si tu avais été confronté si tu avais lu des trucs dernièrement qui serait vraiment issu de mouvements ou de continuation de mouvements qu'il y avait déjà avant, mais de mouvements actuels, de parler du travail, un petit truc libérons-nous du travail, comme ça, si tu ressentais un nouvel engouement ou une continuité d'un engouement, je vais pas dire une renaissance, hein, parce que c'est pas mort, mais un regain d'activité dans une production plus théorique, mais qui serait quand même vraiment, vraiment articulée au terrain.
Dans le monde de la recherche ou dans les milieux que j'étudie
Justement, cette jonction.
L'articulation.
Ouais, l'articulation,
c'est ça dont on parle.
Ouais, cette articulation-là, pour le coup, en fait, je pense que du point de vue des milieux autonomes, il y a quelque chose qui s'est passé à partir de 2011. Où le fait que les procédures antiterroristes s'en prennent directement et visiblement à ces milieux-là, et le fiasco de l'affaire Tarnac a popularisé aussi tout un tas de choses et a donné accès à un certain nombre de médias, ce qui a permis aussi de, quelque part, de permettre à un certain nombre d'idées de s'affirmer dans l'espace public. L'explosion des ventes de l'insurrection qui vient est un truc où en fait il n'y avait pas eu de littérature révolutionnaire aussi vendue depuis sûrement le manifeste. Donc c'est un truc de malade. Donc il y a à la fois, je pense, une stratégie nouvelle dans les milieux autonomes qui vise à non plus à rester uniquement dans la clandestinité, mais à diffuser aussi. Il y a aussi le fait que l'université a souvent été vue comme quelque chose à combattre par des gens qui étaient passés par ailleurs. Là, il y a des volontés d'articulation. La journée Tout le monde déteste le travail, par exemple, qui a eu lieu à Paris, était une articulation entre des universitaires, des activistes, etc. Et je pense qu'il y a une stratégie un peu, un peu de médiatisation de ces idées-là, qui s'articule aussi au fait que, je, à mon avis, c'est une des hypothèses, notamment sur mes travaux sur les collectifs de précaires dans l'enseignement supérieur, que la précarité à l'université fait que l'entrée dans le métier de chercheur est beaucoup plus longue, et qui fait qu'il y a des questionnements différents qui se posent, et que les limites en termes de recrutement, etc., font qu'il y a beaucoup de gens aussi qui continuent le processus d'engagement qui avait commencé à l'arrivée à l'université, et qui fait que il y a plus cette rupture au moment où genre ok, maintenant c'est mon travail, et je fais du syndicalisme, je fais plus d'agitation. Ouais, on se retrouve avec beaucoup de chercheurs qui quelque part sont ultra engagés dans des choses comme des séminaires conséquences à l'ENS ou des espèces d'interfaces comme ça qui sont entre universités, etc. Même dans les lieux autonomes, si tu prends par exemple le Goutaillou à Tarnac, où il y a potentiellement des pistes pour une journée là-bas, etc., il n'y a pas de fermeture à l'université qu'il y avait pu avoir à une époque. La maison de la grève à Rennes a organisé un séminaire sur Marx, où ils invitaient sur l'état d'urgence, où ils invitaient des universitaires. Le colloque Penser l'émancipation est un exemple aussi intéressant. Donc je pense qu'effectivement il y a à la fois une inclinaison plus une reconnaissance de ce savoir autrefois non légitime par les universitaires, et en même temps ça tient aussi à la popularisation, enfin à la médiatisation des contenus théoriques autonomes dans l'espace public. Et sur le punk c'est la même chose en fait, c'est toujours ces allers-retours entre mainstream et underground. Comment, si on prend l'exemple du punk sur la musique, comment un groupe comme Green Day qui explose en 94 va conduire plein de jeunes qui écoutent juste la radio à s'intéresser à des groupes beaucoup plus souterrains et méconnus, parce que c'est une porte d'entrée, quoi.
Oui, moi j'ai une question. Je travaille sur les relations entre l'autonomie politique et les organisations révolutionnaires en histoire. Et du coup, voilà, ton exposé c'était très intéressant, mais je voulais un peu savoir ce que toi tu définissais par autonomie en fait. Parce que je pense que il y a tellement.
C'est un spectre large.
Ouais, voilà, c'est tellement large que c'est bien d'avoir plusieurs idées. Et moi, en histoire, en fait, j'ai vraiment envie d'articuler avec l'histoire orale et donc faire des enquêtes du terrain et tout ça. Donc, du coup, un peu avoir ces informations-là, ça permet de préciser.
L'autonomie politique, tu t'en douteras, elle est rattachée quand même énormément à l'Italie. Alors, la différence, qu'en Italie, c'est des groupes organisés pour le coup, qui les portent bien souvent. Là où l'autonomie diffuse, après, à partir de la fin des années 70, laisse plutôt place à des formes de vie. En France, moi, les bandes sur lesquelles je travaille, c'est plutôt des gens qui se reconnaissent dans l'idée de bande que dans l'idée d'organisation, sont des gens qui se revendiquent à la fois de l'autonomie italienne, mais qui, en même temps, se laissent pas piéger par une identité. C'est-à-dire qu'il y a, c'est des gens qui sont... Ce que j'ai fini par autonomie, c'est plutôt, justement... ce que je mettais au début, tu vois, un certain nombre de pratiques, désertion, zone de passivité offensive, auto-organisation, appropriation de l'espace. Pas prises séparément, mais ensemble. Et qui sont rattachées à des valeurs qu'on connaît, qui sont des valeurs de la tradition libertaire. Mais je travaille pas sur des formes organisées, je travaille sur des formes affinitaires, qui par ailleurs se retrouvent dans des lieux de composition politique, à s'organiser collectivement. Mais on pourra en parler si tu veux. Je ne voudrais pas dire publiquement sur ce que tu travailles, parce que c'est enregistré.
Tu as raison. J'ai une question, comme tu as évoqué justement un parallèle, enfin, Christophe aussi, avec le sport. Mmh. Et avec le fait peut-être que justement, travaillant sur des domaines qui sont à la fois des niches, je dirais, socialement, hein, et en même temps aussi dans le champ académique, des niches ou des là-bas. Il y a des fois aussi, on cherche beaucoup la petite bête chez l'ennemi, mais rarement chez soi, mais la sociologie de Jean-Marie Brome, par exemple, qui conteste un système, etc., si elle devient complètement mainstream, ça perd un peu de sa crédibilité, même ça perd tout son sens. Hein. Et il y a une espèce de posture qu'on voit déjà des fois à d'autres niveaux, même avec des gens qui continuent à dire, par exemple, on n'a pas accès aux médias, alors qu'ils sont tout le temps dans les médias, etc. Et en fait, il y a une posture aussi qui correspond à un projet et à la manière dont ce projet est énoncé, comme avec un peu l'idée de complot aussi, un truc anticapitaliste très fort. Évidemment, tes sujets d'enquête se prêtent à ça aussi. Hein, c'est le problème des groupes qui deviennent mainstream alors qu'ils sont dans la contestation. Mmh. qui sont do it yourself, mais à un moment donné, ça devient vraiment une entreprise avec des salariés qu'on embauche, qu'on ne connaît pas, etc. Bon. Et du coup, tu vois, il y a aussi la question de l'engagement du chercheur là-dedans. Quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est engagé, mais le chercheur est quand même beaucoup engagé dans sa propre carrière aussi. Mmh. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon tu fais même pas thèse, tu fais pas de t'as pas de poste, etc. Et cet engagement dans la propre carrière conduit aussi à des postures, à des positions, à des prises de position qui se traduisent beaucoup, comme tu l'as aussi dit, dans les prises de position politiques qui sont très radicales et qui sont souvent presque les seules initiatives collectives qui existent dans la recherche en fait. Malheureusement, je déplore un peu. Mais tout à coup, je peux donner un exemple, hein, on a une mise de diffusion de notre labo, on poste tout un tas d'informations scientifiques, des nouvelles, des bonnes nouvelles, des trucs, etc. Des appels à participer, à voter ou au conseil de labo, etc. Il y a rarement de réaction à ces messages, mais un message pour soutenir les exilés qui sont à Paris 8, par exemple, a reçu 56 réponses sur peut-être 200 personnes qui le reçoivent en disant « je signe », etc. Et qui tenait à le faire savoir qu'il signait aussi. Et je trouvais ça assez symptomatique. Que, en fait, ce soit la seule expression, mais pas symptomatique aussi du fait que le politique et le politique radical aujourd'hui n'a pas seulement un message à faire passer et des positions, etc., mais aussi occupe une place dans finalement des vies, des milieux, des carrières où tout est tellement formaté, normalisé que qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux pas faire ta qualification, pas faire ta, pas soutenir ta thèse, pas, bah, tu n'existes pas.
Oui, enfin, je rajoute à ça. Ce que je disais à Luc là, un aparté, je rajoute à ça que ben, nous on est fonctionnaires, on a un devoir de réserve et il me semble qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire en fait, même si on les pense. Oui. Ben, moi je cite un exemple, je ne dirais pas le nom, j'ai vu un collègue qui travaille sur plutôt le rap, au lendemain des attentats de Nice, mettre un petit post, donc un collègue très militant sur les femmes dans le rap, etc., mettre un truc sur son Facebook personnel le lendemain de Nice en disant « c'est pas du tout un djihadiste, c'est encore un complot des autorités ». Et ce jour-là, je me suis dit « bon, le type a peut-être raison, c'est pas le problème qu'il a raison ou qu'il ait tort, mais en faisant ça, sur sa page publique, enfin, oui. Il outrepasse quand même quelque chose auquel il me semble qu'on n'a pas le droit quand on est dans l'institution, parce qu'on est quand même fonctionnaire, on a des choses auxquelles on a... Enfin, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et c'est quand même toute l'ambiguïté de ce que tu dis, Simon. Et moi, je sais très bien ce que tu fais parce que tu as publié dans Wall-in, dans Bonda. On a un peu redescendu le militantisme de Simon dans le papier. C'est quand même que c'est très paradoxal de dénoncer l'institution et ensuite de vouloir rentrer dedans, quelque part, si on est cohérent avec ce qu'on veut faire. Alors, on peut rentrer dedans pour la pourrir, comme disait les punks la dernière fois, notre journée d'études, en disant on signe sur une major parce que comme ça on va pourrir la pomme de l'intérieur. Très bien. Mais l'histoire, c'est que quand on appartient à une institution, il faut. Enfin. Voilà, ce que tu as dit, moi ça me parle. Le CNRS, la dernière fois, nous explique, le directeur de l'INSHS vient, je suis au comité national, c'est l'organisme qui recrute les chercheurs, et explique que maintenant, il y a deux politiques prioritaires du CNRS, c'est les War Studies, donc les études sur le terrorisme, on voit très bien ce que ça veut dire, et les études aréales, donc ça c'est un truc assez subtil pour expliquer qu'en fait c'est pour travailler sur l'islam, des trucs comme ça. Donc en gros, quand on est chercheur, qu'on travaille typiquement sur nos thématiques, on n'a plus le droit d'exister, parce qu'on travaille sur des choses qui ne sont pas répertoriées dans les thématiques majoritaires du CNRS.
C'est pas bankable.
Ouais, c'est pas bankable, c'est vrai que c'est un problème, mais après, si tu veux, une fois que tu acceptes de faire partie de cette institution, et moi j'ai été précaire 7 ans, j'ai fait des vacations, du chômage, je sais exactement ce que c'est, et je sais aussi ce que c'est quand on fait des dossiers de financement, on est obligé de demander de la précarité dans une ANR, sinon on n'a pas le droit de soumettre une ANR. Hein, parce que quand même, nous on a pris un poste de 2 ans, il n'y avait que 18 mois, on lui a pris un statut de maire d'ingénieur pour lui prolonger de 6 mois, enfin tout ça en étant contre l'éthique qu'on avait parce que c'est un précaire qui après va repartir dans la nature. Voilà, il y a un moment, on est obligé de se plier aux règles des institutions qui nous recrutent.
Mais je dis pas l'inverse, je dis juste, justement, il y a effectivement...
Je pense que ta position, elle est plus facile à tenir parce que tu n'es pas dedans, pour l'instant.
C'est exactement ce que je disais. C'est-à-dire qu'en gros, t'as ce truc de l'augmentation de la précarité à l'université qui fait que ça favorise aussi, à mon avis, des prises de position. Pour autant, il ne faut pas se mentir non plus, ces prises de position critiques de l'institution dans l'institution, elles ont toujours existé. C'est ce qui a fait toute la tradition, notamment, de la sociologie cussérienne, de Bourdieu, de tous ces grands noms de la sociologie, c'est les gens qui critiquaient l'institution. Je ne pense pas qu'il y ait de paradoxe. Je pense qu'il y a une contradiction entre critiquer l'institution et vouloir y rentrer. Parce qu'effectivement, l'idée n'est pas... nécessairement d'arriver en disant il faut détruire l'institution, il s'agit de savoir comment la travailler. Pas forcément la pourrir, mais comment la travailler. Et c'est-à-dire, de la même manière que, par exemple, on peut refuser le salariat et déserter mais toucher le RMI ou après le RSA, on lance des parties de stratégie qui sont celles de dire bah, je prends de l'État ce qu'il m'enlève par ailleurs.
Mais comme Eric, si tu ne remplis pas ta qualif, tu ne pourras jamais candidater maître de
mais, prof. Exactement, mais ça, ce n'est pas un problème, parce qu'en fait, moi, ce n'est pas comme ça que je me pose la question. Là. Je parlais de la façon dont ça pose des problèmes théoriques et méthodologiques, cette question effectivement du fonctionnaire et du droit de réserve. Le fait est, quand on n'est pas fonctionnaire, c'est effectivement plus facile. C'est plus compliqué après, parce qu'on est tenu, notamment, et c'est justement tout le paradoxe, c'est ce que décrit Marx et Engels, on est tenu par l'État. Et la sociologie, elle se fonde comme une science républicaine. C'est-à-dire que si Durkheim y voit aussi une science qui permet de traiter de l'institution et de sauver les institutions, c'est que pour lui, les institutions doivent être sauvées. Le grand désaccord qu'il aura, par exemple, avec Marx, c'est dans Le Suicide, quand il dit que la courbe du suicide augmente du fait de d'heureuses mais trop soudaines transformations. Et ces courbes de suicide, elles augmentent suite à 1848 et 1871. Les deux révolutions. Du coup, t'as quand même ce truc de c'est heureux mais trop soudain. Et ça serait ça le problème. Parce que l'idée, c'est de maintenir les institutions. Là où Marx, en fait, la réussite de la Commune de Paris sera justement, d'après lui, dans le fait qu'elles aient réussi à substituer d'autres formes institutionnelles aux institutions de l'État qui étaient ultra lourdes, etc. Et dans la guerre civile en France, c'est ce qu'il écrit, c'est fantastique. Et en gros, c'est exactement ce qui se met en place dans le cadre du monde de la recherche aussi, qu'on songe, nous, à notre séminaire pratique et pensée de l'émancipation, où sur la même formule que Pine, hein, on a des universitaires qui travaillent sur une thématique et des collectifs militants qui travaillent sur la même thématique et qui essaient de voir comment bosser ensemble. Comme nous, quand en fait, dans le séminaire, dans les journées d'études, on invite aussi des activistes à parler, etc. C'est comment tu crées des brèches dans l'institution, en fait, pour réussir à en amoindrir cette poussée subie que tu ressens pas forcément quand tu lui résistes pas. Et c'est vrai que les précaires, ils sentent la poussée subie. Parce qu'en fait, ce sont des anomalies. Donc quelque part, à chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien, etc. Donc la poussée de l'institution, il la ressent directement, ce qui forge, à mon avis, cet esprit critique, qui fait que t'as plus de difficultés à t'insérer dans des trucs de labo, type aller voter au conseil de laboratoire, etc., que de dire « Non, l'institution ne veut pas de moi, donc moi, je vais aller partout où l'institution, elle échappe, tu vois. » Et c'est ça, c'est cette articulation-là qui est compliquée et qui est intéressante d'un point de vue méthodologique, je crois.
Mais justement, c'est ce truc de se créer des espaces de liberté à l'intérieur de l'université. Et en fait, surtout le HESS, c'est quand même. Enfin, c'est beaucoup un lieu de passage aussi, beaucoup. Enfin, les gens qui viennent et qui repartent. Et ça a permis quand même d'avoir un truc. Et justement, en fait, de prendre aussi ce qu'on. Parce que c'est ultra normalisé, par exemple. Ça se veut. Enfin, c'est une salle autogérée en soi. Mais c'est ultra normalisé. Ça profite, en fait. C'est ça, enfin, c'est de prendre tout ce que. Enfin, les gens, ils ont fait des travaux parce qu'ils voulaient pas que ça soit fait n'importe comment, enfin, des choses comme ça. Donc, en fait, ça. C'est intéressant ce rapport tout le temps entre. Parce qu'en fait, ça soulage aussi le HESS de pas avoir à chercher des locaux pour avoir un foyer étudiant, des choses comme ça. Mais qu'en même temps, ça permet toujours de s'ouvrir un espace de liberté qui est potentiellement occupable, en fait. Et qui évidemment, bon, bah, quand c'est. Après, c'est plus compliqué, justement. Après, plus on monte dans l'échelle. Hein. Mais de base, comme ça, de. Enfin, qu'un peu. Justement.
Fin... Mais dans la question de la carrière, par rapport à ce que vous disiez, c'est par exemple sur les luttes contre la sélection. Entre le moment où tu es étudiant et le moment où tu es enseignant, c'est-à-dire même quand tu es doctorant, tu es étudiant, mais tu es enseignant, tu peux pas t'exprimer de la même manière en assemblée générale quand tu y vas. Et effectivement, à la fois pour des raisons liées à la carrière, à cette volonté d'entrer dans l'institution, mais aussi de réserve par rapport aux étudiants. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est qu'effectivement, si dans les recherches et dans les méthodes de recherche que je peux déployer, je m'aligne sur une position radicale qui sont celles de mon terrain, pour autant, dans l'enseignement, j'essaie de débloquer les choses dans la tête des étudiants, mais pas hors de question de faire du prosélytisme. Surtout quand t'enseignes Durkheim, c'est compliqué. mais du coup, comment en fait les étudiants, ils n'ont pas affaire aux chercheurs, ils ont affaire à l'enseignant. Et du coup, ça crée toujours un truc assez étrange. C'est-à-dire que en 2016, quand il y a eu une occupation à Caen, là où avant, dès qu'il y avait des occupations en 2006, 2007, 2009, 2010, j'y passais du temps, j'y dormais, etc. Là, ça me semblait ultra compliqué. Alors, il y a à la fois des choses générationnelles, mais il y a aussi le fait qu'à un moment, bah, c'est mes étudiants. Et du coup, alors que je peux défendre une position très militante, etc., pour autant, non, il y a quand même cette réserve, tu vois, quelque part, la socialisation de l'institution, c'est-à-dire tenir un discours, poser, construire, etc., dans une assemblée n'est pas la même chose que de dormir dans un bâtiment collé à des étudiants par terre, tu vois. Et c'est compliqué. c'est compliqué, surtout dans une petite ville de province, parce que là, ce que tu dis, ça passe. On est à Paris, Paris, c'est la ville de l'anonymat. Ton prof, il se balade, il va boire un coup avec des copains, il y a peu de chances que tu le croises. Nous, à Caen, on est dans une petite fac, avec la fac en centre-ville, avec trois bars sur la route, en gros, où tous les étudiants passent et où les profs passent, et t'as tôt de te retrouver avec, avec à côté de toi, des étudiants bourrés qui viennent te voir, hey, « Eh, vous êtes le prof !» C'est marrant, mais... ce qui fait que c'est aussi des fois compliqué dans cette distance.
Après, entre profs, ça joue énormément aussi.
Et ben voilà, aussi sur les dynamiques collectives, ça peut jouer énormément.
Enfin, dans le sens, c'est aussi compliqué de s'investir. Enfin, là, on est à Paris, dans l'anonymat, quoi que ce soit, mais c'est pas non plus un lieu qui va être ultra fréquenté par des profs, parce que, enfin, c'est à raison, enfin, je le comprends. Je comprends tout à fait, quoi. De pas vouloir.
À raison, je sais pas, je pense que c'est aussi. Non, je voulais dire, je le comprends. Je pense que c'est. Une spécificité bien française de concevoir l'institution qui est quand même assez excluante. Nous, par exemple, c'est pour ça que peindre, on ne le fait pas, pas dans l'université, parce qu'on savait que les activistes ne viendraient pas à la fac, parce que la fac, on a fait en sorte, là, pas forcément nous, mais que ça soit quelque chose de bien... Alors, il y a sûrement beaucoup de raisons, parce que on en discute aussi beaucoup au sein de l'équipe. Je pense qu'on est des métiers très déclassés. On est payé comme des chiens, on est considéré par les étudiants, pas vous forcément, mais souvent on est des chiens, hein, je veux dire, on est disponible, corvéable, à merci, etc. Et du coup, ce qu'on fait, on se retranche derrière ce qui nous reste, c'est-à-dire le savoir, le petit pouvoir qu'on a, qui fait que ça crée aussi beaucoup de... Ça crée beaucoup d'exclusion, mais parce qu'en fait, on est aussi... on est dans une position dans la société, que moi, je trouve extrêmement compliquée, en fait. On est rien. Enfin, pourtant, voilà, donc ça crée aussi, je pense qu'on s'est retranché derrière ça pour créer une barrière. Pourquoi est-ce qu'un prof n'irait pas au foyer? Enfin, moi je comprends.
Non, mais je
comprends même pas, si tu veux, nous, avec Luc, on va avec nos étudiants au concert et on va pogoter avec eux et on fait même pas attention. Enfin,
Non, je voulais dire que je le comprenais, que certains profs aient des réticences, de manière générale, pas juste par rapport à la chose, mais de manière générale. À se mêler à ça, mais qu'en même temps, c'est tout à fait possible, dans le sens où...
Il en parlera, mais quand on va en Angleterre, on
se... Il y a quand même cette barrière qui n'est pas si...
Après, je crois que c'est pas que français, genre, je crois qu'il y a une anecdote sur Marcuse qui vient faire une conférence à la Sorbonne en 69 ou un truc comme ça. Et en gros, t'as des étudiants qui commencent à se dessaper en disant « Alors, monsieur Marcuse, c'est la révolution sexuelle. » Et en gros, il déboutonne juste un truc de sa chemise et il continue son cours, tu vois. Et cette posture, en fait, c'est aussi...
Oui, c'est ce que tu évoques, de toute façon, c'est le rôle que tu occupes au moment précis où tu parles, c'est-à-dire que ce que tu dis entre le moment où tu es doctorant et le moment où tu es devant tes étudiants, c'est déjà plus le... Mais tout ce que vous dites, bon, alors après, il faudrait réfléchir dans un contexte où aujourd'hui, on a des réseaux sociaux, des pages Facebook, et on sait parfaitement ce que font les uns ou les autres, parce que tu parles uniquement de la rencontre physique, mais bon, globalement, il y a des frontières qui se sont singulièrement abolies, quand même. Voilà. Moi, j'avais une question à poser, on l'a un petit peu éludé, mais c'est de la fin de ton exposé sur finalement à qui sont destinés les résultats de la recherche, dans la mesure où on parle d'engagement. Là, c'est une vraie question, parce que Solveig a rappelé que nous, on avait investi un espace bien spécifique pour le projet, parce que précisément, ça posait aussi cette question, c'est-à-dire on construit du savoir, mais ça sert à quoi finalement? Est-ce que c'est pour renforcer l'institution et puis à la limite la domination, etc. Ou est-ce que c'est aussi pour donner des outils, construire des manières de réfléchir autrement, ailleurs, etc., etc. Donc ça, c'est, me semble-t-il, une question qui pourrait permettre de prolonger ton exposé. Et...
C'est ce que j'ai essayé de dire un petit peu, c'est comment il y a deux choses, d'après moi, qui sont intéressantes. C'est à la fois l'application du métier de chercheur sur un objet qui permet notamment de montrer les déterminismes, etc. Et en même temps, qui essaie, en partant de ce qui échappe à l'institué, justement, ce qu'il y a dans l'instituant, de déterminer des stratégies. C'est-à-dire qu'il y a une portée, à mon avis, à la fois synchronique, sociologique, et une portée stratégique, prospective. Et ce qui veut dire que du coup, ce à qui c'est destiné, c'est effectivement aux personnes qui sont en lutte dans le cadre de mes terrains. Mais on pourrait imaginer, par exemple, sur le cas de Pinde, que ça puisse être de savoir si nos recherches, elles sont destinées à produire du savoir académique. forcément, parce que c'est aussi une contrepartie qu'on nous demande quand on nous finance.
Voilà.
Mais savoir si le ça c'est l'objectif premier officiel, mais si notre objectif premier officieux, c'est pas aussi peut-être de permettre d'entretenir cette mémoire, parce qu'en fait il me semblait que c'était ça aussi, notamment en mettant en place à la fois des analyses mais aussi des outils qui permettent aux activistes eux-mêmes de produire avec nous, de coproduire cette histoire. Donc je pense que ça c'est par exemple une hypothèse stratégique de Pain. Dans le cadre de mes travaux sur la question de la formation historique du temps social et des luttes sociales contemporaines, il me semble que ce qui manque au mouvement autonome aujourd'hui, c'est la capacité à se penser comme une force d'action sur le temps, par exemple. Donc j'essaie aussi dans la dernière partie de la thèse de traiter cette dimension stratégique. Après la partie historique, et la partie méthodologique, la partie empirique et une partie stratégique. C'est-à-dire comment imaginer, par rapport à des expériences que j'ai pu observer sur le terrain, qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une nouvelle conception du temps qui pourrait permettre quelque chose. Donc, la perspective radicale que je défends, c'est celle-ci, c'est de destiner des travaux aux personnes qui sont concernées par tes travaux. Après, la question de savoir à quoi ils sont destinés, ça modifie aussi énormément de choses. C'est ce que je disais sur le rejet des monographies. Ou par exemple comment un livre comme c'est le livre de Sébastien Chiffre, je crois, sur les squats à Paris, qui avait été très mal pris par le milieu autonome parisien, parce que c'était il y avait des formes de description qui étaient anonymisées, mais il y avait quand même dans un petit milieu des personnes relativement identifiables, et c'est compliqué parce que dans le travail du scientifique c'est quelque part quelque chose qui existe, d'avoir des verbatims, d'avoir des descriptions même anonymisées, etc. Et c'est pourtant incompatible avec les exigences du milieu auquel tu te confrontes. Donc ça oblige aussi à des...
La question de l'anonymisation, en fait, on commence à voir que c'est beaucoup une posture, en fait, parce que ça se fait d'anonymiser pour aussi augmenter un peu le degré, justement, d'intimité que tu as avec ton terrain et que tu ne peux pas partager, etc. Il y a un compte-rendu d'un livre de Léonore Lequen sur l'inceste, en fait, qui a fait Sébastien Roux, je crois que c'est dans... genre sexualité société, où tout en parlant bien du livre, il revient sur cette question de l'anonymat en disant ça n'existe pas, parce qu'en fait elle parle d'une affaire connue, et en deux secondes sur Google se retrouve l'affaire sur Le Parisien, etc. Mais par contre c'est une posture tout à fait prisée.
Ça fait même partie des exigences éthiques quand on dépose un projet. Nous, on vient de déposer l'ERC, on doit l'écrire. Il y a tout un cadrage éthique
en fait. Mais en fait c'est bidon sur le plan de la... sérieusement en fait c'est pas... Et en fait, c'est très souvent contournable. Et si jamais cet anonymat il a un sens, il faudrait qu'il se soit beaucoup mieux fait, parce que là, c'est contournable en quelque. Mais ça fait partie des postures, justement, des choses qui participent aussi, si tu veux, de. Je dirais pour ton sujet. Enfin, tu vois, si tu anonymises pas, on va dire bon, c'est vraiment des mecs des autonomes, tout ça. Ça en fait partie.
Nous, par exemple, sur un article qu'on a écrit là pour des anthropologues avec Julien Long sur. Il faut un numéro sur terreur instituée, violence politique. On a fait un article justement sur la terrorisation de l'ultra-gauche par les nouveaux dispositifs des services de renseignement, etc. Et en gros, moi j'avais dès le départ expliqué à la personne ce qu'on interrogeait des assignés à résidence, des interdits de manif. Oui. Donc des gens en fait où l'État a déjà les données sur eux, parce que c'est eux qui ont mis en place les assignations et les interdictions. La difficulté qu'on aura, c'est qu'il est hors de question pour nous de mettre Michel, 34 ans, pauvre, tu vois. Parce que même si c'est pas la même ville, même si c'est pas le même nom et même si c'est pas le même âge, du coup ça a plus de sens. Puisque la caractéristique sociographique ne fait plus vérité. On disait que nous on était obligés à un moment pour respecter ce terrain-là d'intégrer les verbatims dans le corps du texte. Mais par contre, on a réussi à trouver aussi comme piste méthodologique, puisqu'on s'est trituré le cerveau là-dessus. C'est justement de dire que vu que la police considérait que c'était des personnes, selon la fiche S, les deux fiches S auxquelles on a eu accès, susceptibles de se déplacer sur le territoire national, la question de leur localisation n'avait déjà aucun sens. Que par ailleurs, il y avait une population, dans ce qu'on interrogeait, qui était plutôt relativement homogène d'un point de vue de l'âge, et que du coup, ces questions-là disparaissaient. Et donc les verbatims s'intègrent dans le corps du texte, sans avoir besoin de préciser ces trucs-là. Et pour nous, ça nous semblait plus honnête que d'inventer des noms ou des trucs comme ça qui servent juste de posture pour dire « regardez, on fait de la science ». Et le journal des anthropologues a dit « il n'y a aucun souci, nous on est carré là-dessus, il n'y a pas de problème ».
Parce qu'il y a aussi cette question de la preuve, et dans laquelle l'entretien et la citation in extenso, verbatim, de l'enquêté est devenue, notamment pour la sociologie, je pense, plus que pour l'anthropologie, l'alpha et l'oméga de la preuve et de la véracité et de ce qui valide le paradigme. Et j'ai complètement adhéré à ça. Moi, j'étais formé en Jourdan, sciences sociales, avec un truc très sociologique, bourdieusien et tout. Mais aujourd'hui, j'en reviens un peu. Je me dis, mais bon, ce mec-là a dit ça ce jour-là. Et du coup, c'est ça la preuve. Ouais. Voilà, si tu veux. Et tu vois, par exemple, chez les anthropologues, c'est beaucoup moins vrai. Il y a surtout, c'est plutôt j'ai partagé, etc. Mais en quoi le type que tu as interrogé, il a dit un truc fort, il a dit un truc incroyable, comme par hasard. Et toi, tu es hyper content, tu vas pouvoir le mettre et tout ça. Mais moi, j'ai fait des enquêtes avec les supporters du PSG. Bon. En fait, si tu te prends à ce jeu-là, si tu veux, les gars, ils ont tous tué 36 types, voilà. Et en fait, c'est des conneries, ils se marrent, quoi, tu vois. C'est aussi...
Ah ben, ça pose quand même le bon vieux problème de la fiabilité des données. Voilà. C'est vrai pour un historien qui va sélectionner des éléments d'archives, si tu fais pas très basiquement critique interne, externe des documents et que tu t'interroges pas, bon, voilà. Enfin,
Mais la parole de l'enquêté aujourd'hui, l'enquêté populaire, tout ça, tu vois, ça prend un poids, à un moment donné, démesuré, même par rapport à la voix du chercheur. C'est que lui, il a dit ça, il n'a jamais réfléchi peut-être avant la question, mais toi, le chercheur, tu peux absolument pas avancer d'hypothèses personnelles ou je sais pas quoi, parce que c'est... justement, c'est pas prouvé.
Ouais, c'est ça.
On fera une bonne petite pause pour installer Rose.
Bon,
alors, préparez vos dico d'anglais, enfin, d'irlandais.
Moi, non.
Merci, je crois qu'on peut applaudir encore Simon. Merci à cette intervention.